Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée à tous.
Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Bonjour à vous, c'est Martine avec vous. Alors je vous souhaite de passer une excellente journée. Oui, je suis ravie d'être avec vous pour la commencer. C'est vrai qu'un matin est toujours quelque chose de merveilleux, qu'il soit nuageux ou ensoleillé, car il est toujours un petit peu synonyme d'espoir et nous donne un nouveau début à ce que nous appelons la vie.
La vie peut être belle, c'est elle qui me l'a dit. La vie peut être rebelle, la rivière sortir de son lit. Juste un rayon de soleil à travers les volets. Sur toi, te réveille. Tu ouvres les yeux, tu souris. Si l'on veut trouver des raisons pour se morfondre, se confondre avec le gris du ciel, des usines, des bas-fonds. C'est vrai qu'il y a de quoi se faire une dépression, mais bon. La vie peut être belle, c'est toi qui me l'as dit. La vie peut être rebelle, la rivière sortir de son lit. La vie est belle, c'est toi qui me l'as dit. La vie est belle, dans tes bras, dans ton lit. Si l'on veut trouver des raisons pour se morfondre, se confondre avec le gris du ciel, les usines, des bas-fonds. Si l'on veut trouver des raisons pour se morfondre, se confondre, c'est vrai qu'il y a de quoi se faire une dépression, mais bon. Thank you.
Moschino sur Radio Plus. Et en effet, comme le disait Ingmar Bergman, la vie peut être belle même si la réalité ne l'est pas. Alors ils sont bien réels, ces pesticides épandus dans les champs actuellement et quelquefois à moins de 3 mètres des habitations. Alors nous en avons parlé lors de la dernière émission avec Jean-Louis Ouatté qui disait que nous en étions tous un petit peu responsables en tant que consommateurs, ce que confirmait aussi Bertrand Trinel, hein, qui, vous le savez, ne jardine que de façon naturelle. Et au cours de son interview, eh bien Jean-Louis souhaitait que les médecins généralistes et spécialistes s'impliquent davantage dans le combat contre ces substances toxiques. Alors avec nous aujourd'hui, le docteur Guy de Regnaucourt qui nous confirmera la nocivité de ces produits de synthèse. Et puis pour lui empoêter le pas, Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages et jardins des hommes, avec qui nous parlerons surtout tomates aujourd'hui, puisque vous savez que Bertrand est un grand spécialiste de la tomate, lui consacrant même sa grande fête annuelle en septembre. Et puis alors tout à l'heure je vous citais Ingmar, oui c'est pas facile à dire ça, Bergman, la vie peut être belle même si la réalité ne l'est pas, et bien en effet faut savoir perdre de vue le rivage, c'est en tout cas le titre du livre de Sophie Machaud, ouvrage très optimiste que nous ont présenté Thérèse Parsi et Véronique Colanda, nos astrologues. Alors elles seront là pour nous en reparler et puis pour nous donner des clés pour notre épanouissement personnel après cette période un petit peu noire que nous venons de vivre.
Je peux pas partir, je peux pas changer mon destin, j'ai
Daniel Balavoine sur Radio Plus. Eh bien oui, si, je voulais venir pour être avec vous. Alors, notre enquête dans l'air du temps, d'abord une question. Après le Covid-19, le monde va-t-il changer? Alors, il y en a qui appellent cela le monde d'après, et chacun y va de son imagination, on va dire, pour parler de ce futur et émettre des pseudo-prophéties sur ce monde qui devrait devenir meilleur après l'épreuve qu'il vient de vivre. Alors, voyez-vous, eh bien, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à y croire. Le monde va peut-être changer, économie oblige, et ce sera sans doute plus dur pour certains. Mais alors, deviendra-t-il meilleur? J'ai des doutes. C'est l'humain. Une fois l'épreuve passée, on oublie les bonnes résolutions. Vous savez, un petit peu comme les régimes alimentaires du jour de l'an que personne ne tient. Et puis, comme je l'ai souligné dans une émission précédente avec des exemples, le confinement a montré ce que l'humanité a de meilleur, mais aussi de pire. Il y aura toujours les gens bien, et puis toujours les autres. Alors, vous voulez un autre exemple? Et justement, ce sera notre enquête de la semaine. 3 semaines après le déconfinement et le retour des Français sur les routes, la sécurité routière s'inquiète. S'est inquiété samedi des premiers chiffres alarmants, avec une hausse des accidents mortels et un bond de 15% des grands excès de vitesse. En plus, l'enquête laisse apparaître une recrudescence des franchissements de feux rouges. Oui, le mois d'avril avait vu le nombre de morts baisser avec 55,8% en moins. Eh bien, je pense qu'on va tout rattraper d'un seul coup. Un monde meilleur, m'avez-vous dit ?
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir et faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs, pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs, ou vaincre ses démons. Sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur, perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur, des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs, pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs, ou vaincre ses démons.
Musique signée Calogero pour cette chanson interprétée par Florent Pagny, et c'est sur Radio Plus. Alors, lors de la dernière émission dans Sale Temps sur la planète, nous avions abordé à nouveau le thème des pesticides, puisque vous le savez sans doute, sous le prétexte que le Covid-19 empêcherait les consultations du public, eh bien, le gouvernement, en ce début d'année, a reculé de nouveau en accordant des réductions supplémentaires pour épandre les pesticides à des distances encore plus faibles des habitations que celles pourtant insuffisamment protectrices imposées en décembre. Alors nous en avons longuement parlé avec Jean-Louis Ouettet, président de l'Étrême Nature. Ce même jour, c'était aussi la journée mondiale de la thyroïde et le docteur Guy de Regnaucourt était à ce micro pour nous montrer l'importance et l'intérêt de cette glande endocrine qui, au prorata de son importance, nous a pris beaucoup de temps d'antenne. Alors pourtant, afin que les deux rubriques se rejoignent, je voulais demander l'avis du médecin spécialiste sur l'impact de ces substances toxiques sur notre santé et je le remercie donc d'être à nouveau avec nous aujourd'hui pour nous donner son avis.
Ça danse sur la planète. Le drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Ah, excuse.
Bonjour à toutes et à tous.
Oui, alors il y avait Larsen avec nous, mais je pense que c'est une question de micro et de casque, de micro, enfin de technique.
D'accord.
Alors. Lors de la dernière émission, docteur, et à l'occasion de la journée mondiale de la thyroïde, vous nous avez bien expliqué l'influence majeure de cette petite glande sur notre organisme et rappelé les différents troubles pouvant nuire à son bon fonctionnement. Oui, la thyroïde peut se dérégler et bien sûr les causes en sont assez nombreuses. Elles peuvent être d'origine virale ou dues à une carence en iode ou à une maladie auto-immune ou d'origine médicamenteuse, etc., etc. Alors les troubles de la thyroïde sont le trouble endocrinien le plus répandu et paraît-il représente un problème croissant dans le monde. Alors la question que je voulais absolument vous poser docteur est pour cause puisque l'actualité nous replonge dedans avec le gouvernement qui recule de nouveau accordant des réductions supplémentaires pour répandre les pesticides à des distances très faibles des habitations. Eh bien pourrions-nous justement, docteur, associer ce problème à notre environnement. Alors j'ai sous les yeux le témoignage d'un villageois habitant dans une zone de culture intensive et à moins de 10 mètres d'une zone de maraîchage. Il dit que toutes ces cultures sont traitées intensivement et fréquemment. Il dit qu'après les épandages, lui et sa famille ressentent des problèmes oculaires et respiratoires, ainsi que des irritations et démangeaisons, de même qu'une fatigue permanente et qu'ils ont aussi des problèmes de thyroïde. Mais, dit-il, le corps médical ne fait pas le lien avec les pratiques agricoles car le sujet est tabou localement. Alors, votre avis, docteur ?
Oui, le sujet est probablement tabou parce qu'il y a beaucoup de freins, mais le corps médical a de plus en plus connaissance de cet impact, il le reconnaît. Il recherche maintenant la cause, je dirais, toxique à certaines maladies, hein, que ça ne soit oculaire, cutanée, pulmonaire et endocrine. Par contre, il y a toujours, et c'est ce que vous avez dit en entrée, ce qu'on appelle le tabou de Big Pharma, vous savez, les fabricants de produits pharmaceutiques qui sont à la fois bons et mauvais, je n'irai pas plus loin, et la Big Chimie, c'est-à-dire les fabricants de produits chimiques. Mais la pandémie a eu un effet positif sur notre réflexion sanitaire, sur l'amélioration de la détection des polluants, du fait qu'on était plus au calme et au repos.
Alors, docteur de Regnaucourt, pesticides et perturbateurs endocriniens, comme on a déjà pu les citer dans cette rubrique avec Jean-Louis Ouettet, président de l'Étrême Nature, pesticides et perturbateurs endocriniens, même combat. Et par exemple, il a été mis dernièrement en évidence par l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les effets toxiques du résorcinol et de l'aluminium sur la fonction thyroïdienne avec des conséquences graves, notamment chez les femmes enceintes. Alors, pour exemple, on trouve ces substances surtout en cosmétique, dans les colorations pour cheveux, dans les crèmes anti-taches, mais également dans le synthol.
Oui, il n'y a pas que là, et je vais d'abord être plus simple, c'est d'abord ce qu'on mange. Les crucifères, tous les tubercules, tous les flavonoïdes, c'est-à-dire le soja, et les aliments que l'on cuit. Souvenez-vous des chips, dont la décomposition à la brûlure provoque le résorcinol. Tout cela se promène dans l'eau, dans nos emballages. On le retrouve effectivement, comme vous l'avez dit, dans les produits de beauté, dans l'hygiène corporelle, dans l'habillement, dans les peintures, dans les meubles, dans les médicaments. Et là, je voudrais parler du dioxyde de titane, mais j'insiste pas plus. Et dans le jardinage. Alors, pourquoi ? Parce que tous ces aliments, tous ces produits naturels sont impactés par des effets chimiques. Vous vous souvenez du DDT, des conservateurs alimentaires. Je vais en citer quelques-uns, je suis désolé, mais il faut que vous sachiez tous et toutes que les phtalates que l'on trouve dans le plastique, que le bisphénol que l'on trouve notamment dans les biberons de bébé, que les protecteurs des meubles, des tapis, que les dopants des carburants, le résorcinol, j'en ai déjà dit, que les dioxines et les furanes qu'on trouve dans l'alimentation, les isolants électriques pour les maisons, ben, je vais bientôt avoir terminé ma liste, les retardateurs de flammes, enfin et surtout on en vient au sujet d'aujourd'hui, les pesticides, le glyphosate, les organophosphorés et le perfluor. Et n'oubliez pas que vous vous lavez les dents tous les matins, le triclosan qui est aussi un perturbateur hormonal. Vous voyez, on n'en a pas fini.
Alors, perturbateurs et pesticides et perturbateurs endocriniens dans le même panier, c'est un véritable problème de santé publique avec les effets aigus et les effets à long terme.
Oui, parce que ces perturbateurs endocriniens sont des polluants de la nature. Ils vont entrer dans l'organisme humain par mimétisme avec nos hormones, notamment thyroïdiennes. Ils vont modifier la synthèse de ces hormones et provoquer un blocage de leur élaboration. Donc, on va avoir un défaut de fonctionnement de la thyroïde. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, dans le sens hypo ou hyperthyroïdien. C'est souvent hypothyroïdien parce que ça bloque. Hein, et il faut faire attention à l'effet sur la femme enceinte, sur le bébé qui va naître, c'est-à-dire l'embryogenèse. Donc, tout cela est réglé, même déréglé, par aussi une excitation de l'hypophyse, la glande qui régularise tout ça au niveau du cerveau. Et donc, nous avons enfin, après l'aigu, le long cours, c'est les perturbations génétiques qui vont entraîner des perturbations chez le fœtus, chez les enfants, qui vont entraîner des troubles dans la fabrication du sang, hein, qui est notre circuit normal, et on va avoir des leucémies, des lymphomes, etc., etc. Et je ne parle pas des effets directs cutanés, oculaires, pulmonaires.
Tout à fait. Oui, la liste serait encore longue, très longue.
Exactement.
Alors justement, problème de santé publique. Alors, lors de la dernière émission, j'ai évoqué le cas de cet agriculteur en lutte contre Monsanto et qui mettait en accusation l'irresponsabilité des politiques, n'épargnant ni Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, ni le président Emmanuel Macron, lançant même honte à eux, hein, c'est cet agriculteur qui l'a dit, honte à eux. Alors à cela, Jean-Louis Ouattet a fait remarquer qu'il était trop facile de ne cibler que quelques personnes et que les responsabilités devaient être partagées. Par exemple, avec les maires et les conseillers départementaux qui ont laissé se déverser des tonnes de pesticides dans nos espaces verts, avec aussi le public réticent à avoir quelques herbes non désirées. Et puis, il met en cause aussi les médecins généralistes et spécialistes qui, je cite Jean-Louis, dont la majorité sont malheureusement aux abonnés absents quand des actions sont menées de sensibilisation et de prévention et qui seraient pourtant des relais essentiels. Alors, votre mot, docteur.
Oui, je suis d'accord. Il y a effectivement une grande partie des médecins qui ne prêtent pas attention à l'effet nocif des toxiques. Mais les associations existent. La fameuse association alerte du docteur Perrineau. Il y a l'INSERM qui nous appelle. Il y a des conseils médicaux, notamment en secteur rural, aux agriculteurs, aux familles, aux utilisateurs. Il y a la surveillance de l'enfance et de la femme enceinte. Et récemment, une pétition de plus de 1000 médecins nous a tous alertés de faire attention. Enfin, n'oublions pas l'Institut Pasteur avec son centre de toxicologie. N'oublions pas les pharmaciens qui sont juste à côté de nous et qui ont quand même une notion précise de la toxicologie.
De toute façon, je pense quand même que lorsqu'un gouvernement, que ce soit par l'intermédiaire de son ministère de la Santé ou celui de l'Agriculture, décide quelque chose, eh bien, il est quand même difficile de lutter contre. Et nous avons, de moins en moins notre mot à dire. Alors, je prendrai encore pour preuve cette dernière décision sur les distances d'épandage. Décision prise dans l'urgence et en pleine pandémie, et ce, sous la pression de certains utilisateurs de pesticides. Alors tout ce qui avait été dit et dénoncé par les ONG, comme par exemple Génération Future, a été complètement ignoré et la consultation publique a été laissée de côté. Et puis on sait bien que les lanceurs d'alerte quand même, docteur, ont besoin d'être protégés et on sait pourquoi. Et d'ailleurs, bon nombre de médecins en ont fait les frais, n'est-ce pas ?
Oui, alors je vais quand même modérer un peu le propos. Bien sûr, bon nombre de médecins ont été attaqués, mais maintenant, depuis 2016, il y a une loi de la protection, c'est la loi Sapin 2. Il y a un guide qui a été sorti pour les lanceurs d'alerte avec le sens du respect du secret médical. Et depuis 2019, sur le net, existe un site sécurisé pour lancer les alertes de santé, de l'environnement et de la déontologie. Et n'oublions pas que nous avons notre ministre, ancien ministre, défenseur des droits, vers lequel tout lanceur d'alerte doit d'abord lancer sa prévention.
Docteur de Renecourt, merci.
J'espère que j'ai été...
Très clair, très clair.
Voilà. Bon,
voilà. Merci et très très bonne journée, très bonne semaine à vous. Et puis à tantôt sur cette antenne.
À tantôt et bonne journée à toutes et à tous.
Merci.
Entreprise tombe alors sous votre emprise. Je t'envoie des milliards ici et puis des missiles là. Je t'en enverrai d'autres demain, ça fait rien, je fais des emprunts. Un pays de liberté ici, c'est vraiment de l'escroquerie. On est stressé, on s'ennuie, ridicule et avili. Et on reste coincé chez soi, tout du moins quand on en a. Là c'est dit pour les branleurs, pour les pauvres il y en a pas. Suce-moi bien. Dangereux, ces gens-là sont dangereux.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux. Je ne demande de plus payer les vignettes et la télé, l'eau et l'électricité et les taxes d'habitation. Et puis les contraventions, les péages, on serait simplement qu'un million. Les impôts sur leur venue qui vous mettent les gens à nu. Je trouve ça dégueulasse, les banquiers qui se prélassent, les assureurs qui assurent pas, comment on se faire payer. Et le docteur qui a peur de se choper le sida et qui ne propose pas de faire les tests comme il doit. C'est lui qui vous fait acheter des kilos de comprimés pour aider le pharmacien à payer son beau terrain. Refus des médecins. Nouvelle, rien que des vieux mandarins. Tous les jeunes à la poubelle, 7 ans d'études pour rien. Vous, quand vous tombez malade, vous n'êtes pas dans la panade. Les infirmières connaissent pas, les autocrados, y en a pas. Suce-moi bien.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux. Je ne demande de ne plus payer les crimes des policiers, les journaux télévisés qui vous minent toute la journée. Le Liban reprend les armes, les Yougos sont dans les larmes. On annonce 200 tués, passez une bonne journée. Épaulé de la météo qui vous dit qu'il fera pas beau, comme si on ne le savait pas, dans les studios on voit pas. Pendant que PPD tient bon avec ses interviews bidons, les médias dans leur ghetto tiennent le pays sous leur gros. Je sens qu'il me vient la ronde de les noyer dans la Vologne. Nous vivons dans un pays où presque tout est interdit. Autorisation de chanter, autorisation de danser, de se marier, se baigner. Autorisation de voyager, autorisation d'amnistier, de gracier, autorisation de fraterniser, autorisation de fumer, autorisation d'aimer, autorisation de partir. Dangereux, ces gens-là sont dangereux.
Dangereux,
ces gens-là sont dangereux.
La clairvoyance de Pierre Vassilius sur Radio Plus. Alors, agriculteur, certes, mais sans produits phytosanitaires. Et on en parle encore avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors c'est aujourd'hui la Saint-Médard, il y a un dicton qui dit que c'est un grand pissard. Peut-on y croire ?
Vous savez, les dictons datent d'une époque où les prévisions météorologiques n'existaient pas, donc il fallait trouver quelque chose pour se repérer. Donc ils ont inventé des dictons, enfin ils ont eu recours aux dictons. Donc c'était une méthode empirique qui était née de l'observation, hein, donc des phénomènes répétitifs et puis qui étaient adaptés, les dictons étaient adaptés à telle ou telle région. Bon, je suis convaincu qu'à une certaine époque, les dictons donnaient de bonnes indications, hein, de bonnes tendances. Maintenant, avec le réchauffement climatique, j'en suis moins sûr. Hein.
Enfin, la preuve, il pleut aujourd'hui.
Oui, il pleut, mais enfin, c'est quand même pas un grand pissard. Hein.
Non. Alors, un fruit ou un légume du jardin élevé sans pesticides et qui arrive à maturité de façon naturelle, quel régal. Alors Bertrand, les premières cerises sont déjà mûres et on les déguste déjà, mais je parle du mois. Sec et chaud y est sans doute pour quelque chose. Alors quant à elles, elles sont comme de grosses cerises, mais elles ne sont pas que rouges. Je veux parler de la tomate dont vous êtes le grand spécialiste, Bertrand. Alors, elles en sont où ces tomates? Parce que elles sont justement un petit peu comme les cerises. Les vrais amateurs, j'entends ceux qui les aiment goûteuses, qui les aiment vraies de saison, attendent après. Alors certains me diront que la tomate se trouve sur les étals tout au long de l'année, mais ce ne sont pas de celles-là hein, dont on parle.
Non, ce sont surtout pas des tomates que l'on trouve sur les étals toute l'année que nous parlons. Hein.
Non.
Celles-là sont créées pour résister au traitement, pour conserver longtemps et tout ça au détriment de la qualité gustative. Hein. Leur goût est souvent insipide. Hein. Alors je parle même pas de leur bilan carbone de la production jusqu'à leur mise en rayon. Alors, on préfère parler de vraies tomates, celles que l'on dit anciennes. Pour la plupart, elles ont une qualité gustative exceptionnelle. Elles sont goûteuses à souhait. Hein. Et ceux qui les dégustent pour la première fois se demandent comment ils ont pu manger celles du commerce. Hein. Franchement, j'ai pas mal de gens qui disent « mais c'est incroyable ». Et puis il y en a de toutes les couleurs, de la blanche à la noire, en passant par le vert, le bleu, le jaune, l'orange, les striés, de toutes les grosseurs. Hein, certaines sont grosses comme des petites groseilles, d'autres comme des cerises, des cocktails. Il y en a des moyennes, il y en a des très grosses. Hein. Et puis elles ont toutes les formes. Elles sont rondes. Il y en a des aplaties, il y en a des allongées, il y en a en forme de cœur, de poire, de gourde, de poivron. Donc c'est vrai que il est possible de. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, il est possible de récupérer pas mal de graines et pour les ressemer l'année suivante. Donc c'est un véritable patrimoine végétal vivant, donc il nous faut préserver pour les générations futures. Parce que, donc à PGH, on a à peu près 950 variétés, mais il faut savoir que dans le monde, il y en existe plus de 20 000 variétés. Donc si on peut protéger toutes ces tomates et en général tous les légumes anciens, c'est bien pour les générations futures.
Alors là, elles sont... on commence à les voir quand même, hein?
Oui, on commence à voir les petites tomates qui arrivent, que ce soit extérieur ou en serre. Hein.
Alors, actuellement, en ce mois de juin, en période de sécheresse dans laquelle on rentre à nouveau, malheureusement, hein, même si aujourd'hui il y a un petit crachouillis, quoi faire pour avoir bientôt de beaux fruits? Alors, je suppose, Bertrand, que justement, comme la pluie se fait désirer, le mildiou n'est pas à craindre, mais il y a peut-être d'autres soins à leur apporter, justement, pour qu'elles soient belles.
Oui, alors, la pluie est effectivement désirée pour la plupart des légumes, hein. Hein, et c'est vrai qu'il fait très sec au jardin, mais toutefois pour les tomates c'est beaucoup moins vrai. Hein. Alors je vais vous expliquer comment nous on procède au jardin de l'ermite. Hein. Tout d'abord, quand on prend des tomates avant de le planter, on coupe toutes les feuilles du bas pour ne laisser que 4 à 5 feuilles au sommet. Toute la partie sans feuilles sera enterrée. Donc on va creuser un trou d'environ 25 à 30 cm de profondeur, pour environ un diamètre de 30 cm. On noua le trou une première fois, puis on laisse l'eau s'infiltrer. On remplit à nouveau le trou d'eau une seconde fois, on attend l'infiltration complète et on dépose au fond un peu de patenkali. Patenkali, c'est de la potasse naturelle qui contient environ 10% de magnésium. Donc si vous n'avez pas de patenkali, un peu d'encre organique bio, riche en phosphate et en potasse, fera très bien l'affaire. Donc après avoir fait tremper quelques minutes le pied de tomate dans un seau d'eau, parce qu'on ne va pas mettre la mode de tomate si elle est sèche directement en terre, on la fait tremper d'abord, on vient le placer au fond du trou. Et comme Nous avons de très beaux pieds de tomates, hein. C'est vrai que nos pieds étaient très beaux. Les plantes, on la plante carrément inclinée. Et pour ne laisser dépasser que les quelques feuilles du sommet, toute la tige est enterrée et cette tige va donner pas mal de racines. Tout le long de la tige, il y aura de nouvelles racines. On rebouche ensuite le trou, on arrose copieusement. Ensuite, il suffit de passer un tuteur. Donc le tuteur, c'est uniquement, pour nous, ce sera uniquement en fer à béton rouillé, hein. Surtout pas peint. Alors, pas de tuteur en fer torsadé galvanisé, pas de tuteur en bois, pas de tuteur en bambou. Hein. Et plus ils sont hauts, mieux c'est. Hein. Donc avec les tuteurs en fer à béton, là, on va aborder un peu l'électroculture. Bon, c'est trop long à expliquer maintenant, peut-être qu'on fera dans une prochaine émission. Hein. En tout cas, essayez le fer à béton et vous constaterez par vous-même la différence. Hein.
Mmh.
Avec environ 20 cm de paille ou du fumet de cheval très pailleux. Et c'est terminé, on n'arrosera plus de l'année. Hein. Même par temps de canicule, comme l'année dernière, on n'a jamais arrosé, on a eu de très très belles tomates.
D'accord.
Hein, parce qu'en faisant ça, la plante va faire des racines très profondément dans le sol pour aller puiser l'eau profondément. Donc même s'il y a une sécheresse en surface, bah, en profondeur, il y a toujours de l'eau, il y a toujours un peu d'eau, et les tomates ne souffrent absolument pas du manque d'eau.
D'accord.
Hein. Alors en ce moment, ce qu'on peut faire, c'est les attacher au tuteur, couper les gourmands. Alors, on coupe les gourmands par temps sec et chaud, avec une paire de ciseaux ou mieux une épinette, afin d'avoir une coupe très nette. Hein. Si on casse avec les doigts, souvent la coupe n'est pas nette et c'est une entrée pour les virus. Hein. Et puis si la pluie est importante, bon, on peut faire un petit traitement au bicarbonate de soude. Hein.
Mmh.
C'est du bicarbonate de soude alimentaire, hein, c'est-à-dire une ou deux cuillères à café de bicarbonate de soude qu'on va diluer dans l'eau chaude et qu'on va remélanger après dans un litre d'eau. À cela, on peut prendre une cuillère à soupe de savon liquide, hein, savon de Marseille ou autre, hein, savon noir, dans laquelle on va ajouter 7 à 8 gouttes d'huile essentielle de titruy, hein, l'arbre à thé, qui est un fongicide, et on remélange ça au litre, ça fait une émulsion, et on pulvérise, et c'est tout à fait naturel, et c'est très bien pour lutter contre le mildiou ou autre maladie.
D'accord. Et alors justement, vous parliez un petit peu de virus, hein. On en est où avec ce virus de la tomate, celui qui avait touché les cultures, les tomates de serre, je précise.
Oui, bah alors que pour ceux qui, comme nous, cultivent des tomates anciennes en récoltant leurs propres graines, il n'y a pas trop à craindre de ce nouveau virus. Hein.
D'accord.
Ce virus, il s'est déclaré vraiment dans des grandes serres industrielles en monoculture.
Mm.
Alors bien souvent, les graines, en plus leurs graines proviennent de grandes sociétés qui produisent, ça produit les graines en Inde. On ne sait pas sous quelle... donc c'est pas ça à dire. Bon, bah, le virus va tâcher les tomates, va les déformer. Elles sont sans danger, on pouvait les manger sans danger pour l'homme, mais le goût n'est vraiment pas... est exécrable, hein, donc elles sont quasiment immangeables, quoi.
D'accord.
Donc il faut quand même surveiller nos cultures, on ne sait jamais, mais pour moi, il n'y a aucun risque pour les particuliers.
D'accord. Alors, je parlais tout à l'heure de tomates goûteuses, et justement, on pourrait se poser la question de savoir où est passé le goût de la tomate d'antan. Alors vous, Bertrand, vous me répondrez qu'il s'est perdu quelque part entre le succès de la plante qui en a fait le fruit le plus consommé et son utilisation massive par l'agro-industrie qui a nécessité d'obtenir des variétés plus fermes, aisément transportables et plus résistantes aux maladies. Alors, il faut donc admettre une chose, et nous l'avons souvent déploré, la quasi-totalité des tomates du commerce ont beau être bien rondes, bien calibrées, paraissant appétissantes, elles sont complètement insipides, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, information, Bertrand, qui je pense va vous laisser sceptique et qui va peut-être vous faire sourire. Une équipe internationale de chercheurs ont tenté de poursuivre l'étude génétique de la tomate et avec des méthodes de génétique classique vont croiser des variétés pour arriver à produire une tomate résistante et en même temps succulente. Et puis, autre information, Bertrand, alors qu'aucune tomate OGM n'est plus commercialisée, des chercheurs britanniques cultivent justement une tomate génétiquement modifiée, produisant un polyphénol que l'on trouve dans le raisin et qui aurait donc des vertus antioxydantes bénéfiques pour la santé. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs pensent que la tomate devra s'adapter au réchauffement climatique. Donc, une équipe internationale est parvenue à modifier des plants modernes en agissant sur leurs gènes pour réguler la floraison avec, comme résultat, une tomate qui va fleurir 2 semaines plus tôt. Vive la science, n'est-ce pas, Bertrand?
Ben alors moi, je vais répondre, hein, parce que tout d'abord, la tomate, c'est une plante qui s'est adaptée partout dans le monde.
Mmh.
Alors, aussi bien dans les pays froids que dans les pays chauds. Donc, à l'état sauvage, elle est originaire d'Amérique du Sud, hein, de le Pérou et d'autres pays. Et elle pousse naturellement environ 2000 mètres d'altitude dans un sol volcanique très riche, mais très poreux, heureusement bien arrosé.
Mmh.
Et puis, à partir de là, elle s'est répandue à travers tout le monde. Donc, on n'a pas entendu le réchauffement climatique pour qu'elle pousse dans les pays chauds. Donc, pas besoin d'essayer de trouver une tomate qui va pousser dans le chaud, dans la chaleur. Elle y pousse déjà. Concernant les antioxydants, faut savoir que les légumes aux couleurs foncées contiennent beaucoup plus que les autres. Et depuis 2004, on a les tomates bleues qui sont arrivées, ce sont les tomates anciennes, car elles sont fixées, on peut récupérer les graines d'année en année. Et ces tomates sont très riches en anthocyanes et en antioxydants. Donc, et puis la plupart des tomates, si on veut des tomates succulentes, elles sont déjà succulentes. Alors pourquoi faire des OGM là-dessus? On se le demande. Hein. Donc voilà, donc c'est bizarre quand même. Hein.
Oui.
Une tomate supérieure, c'est certainement pour dire qu'ils ont créé une tomate supérieure à toutes les autres, et c'est certainement pour bien remplir leur poche, hein,
tout
au détriment du consommateur.
On est d'accord. Alors, nous parlerons une autre fois de la sauce tomate, hein, mais là, avant de nous séparer, je vous pose quand même la question très vite, Bertrand, de savoir, est-ce que vous pensez que votre fête de la tomate aura lieu en septembre et elle pourra se faire cette année?
Eh bien, pour l'instant, on croise les droits et on prépare la 15e fête de la tomate et légumes anciens. On attend l'évolution du coronavirus jusqu'au fin juillet, mais pour nous, ça va se faire. Donc,
d'accord.
À l'heure d'aujourd'hui, on est confiant.
Bon, eh ben, tant mieux. En tout cas, on dit aussi que ce samedi, vous ouvrirez le jardin de l'association au public, le jardin de l'ermite situé à Averskerk, rue de la Gaugerie. Le jardin, bien sûr, qui accueillera nos auditeurs avec son couple de cigognes et leurs cigognos.
Oui, c'est à l'occasion de l'ouverture des jardins de l'association Jardin Passion, dont nous faisons partie. Hein. Donc ce samedi 13 juin, effectivement, on sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Alors, le jardin de l'ermite se situe rue de la Gaugerie à Averskerk.
Hein,
donc moi, je vais faire des visites guidées, donc si vous voulez venir découvrir le jardin. Alors l'entrée sera payante, parce que nous, on n'a pas de revenus au niveau de l'association, c'est 3 € par visiteur, mais vous allez apprendre certainement beaucoup de choses. Et puis vous verrez nos cigognos et nos cigognes.
Tout à fait. Merci Bertrand et bonne semaine à vous. Et puis on se dit à samedi donc.
Oui,
on
à
y
samedi.
Sera. Merci.
Merci bien.
Bonne
à
semaine
samedi.
À vous. À samedi.
Bonne semaine. Hein. Au revoir.
Grand-chose, trois fois rien, mais c'est bien quatre roses. Juste un coin de jardin tout en friche, un vieux chien pas malin qui s'en fiche. Du lilas, quelques noix, du genièvre, un buisson de chansons sur les lèvres, une fleur dans le cœur à te dire, des placards pleins d'histoires et de rire. Nous, tu vois, qu'est-ce qu'on a? Des cerises, des châteaux en morceaux dans l'eau grise, des années à donner sans attendre, des grands soirs de l'espoir.
Gilbert Lafaye sur Radio Plus, c'est vrai que c'est sans doute cela le vrai bonheur, être heureux après cette période, cette triste période que nous venons de vivre. Je vous le souhaite et justement tout de suite avec nous Thérèse Parsi et Véronique Colanda qui nous parlent d'épanouissement personnel. Et oui, Boris Cyrulnik, neurologue et psychiatre, connu pour avoir vulgarisé le concept de résilience, c'est-à-dire la capacité de se reconstruire après un traumatisme, qualifie ce que nous venons de vivre de catastrophe. Or, dit-il, avec la catastrophe, on prend un tournant brutal vers une autre direction. En début d'année, mais aussi lors de notre dernier entretien, Thérèse Parsi et Véronique Colanda, astrologues spécialisés de développement personnel et en tarot, nous avaient expliqué que 2020 serait l'année des grands changements, et ce dans un climat chaotique, car tout ce qui n'est pas juste doit se détruire pour se reconstruire. Assez troublant quand même, non? Thérèse Parsi et Véronique Colanda, bonjour.
Bonjour Martine, bonjour les auditeurs.
Alors Boris Cyrulnik parle de s'adapter et reprendre un autre bon développement après cette période. Certes, mais comme nous n'avons pas été tous égaux devant cette situation exceptionnelle, il n'y aura pas non plus d'égalité dans le post-confinement. Et l'épanouissement personnel sera donc plus difficile pour certains. Alors quel conseil donneriez-vous pour les aider à retrouver la force?
Alors, pour rappel, nous vivons une situation inédite avec la rencontre de trois planètes, Jupiter, Pluton, Saturne, Capricorne. Et avec le confinement, nous avons vécu une déconstruction sociale, avec l'obligation de rester chez nous et de vivre en retrait. Alors, avec le post-confinement, la vie avance, et pour retrouver la force, notre énergie vitale, il faut d'abord calmer nos craintes, nos peurs, nos angoisses, nous adapter dans ce monde anxiogène, accepter de nouvelles attitudes, comme de porter un masque, garder nos distances, mais c'est aussi pour se protéger les uns des autres, dans la bienveillance, d'ouvrir notre cœur, et puis oser vivre l'instant, pour se relier avec la part divine qui est en nous, donc croire en soi, la foi, le développement de la spiritualité également.
Alors, Véronique et Thérèse, on insiste sur le fait que vous ne prédisez rien et que vous n'êtes pas du tout dans l'horoscope. Alors, il y a un vers issu d'un poème de l'écrivain William Ernest Henley qui dit ceci: « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. Dans un monde où la pensée scientifique et la causalité ne gouvernaient pas encore les esprits, beaucoup faisaient de l'ensemble des astres les maîtres du destin des hommes. » Alors, je suppose que finalement, il y a quand même un petit peu corrélation entre les deux, entre le poète et les croyances, par exemple.
Oui, tout à fait. Comme vous l'avez souligné, on ne fait pas de divination, mais en astrologie, on peut découvrir son thème. Lors de notre naissance, les positions des planètes avec notre date, heure et lieu de naissance font notre carte intérieure et ça permet de se découvrir avec ses forces et ses bêtes, mais aussi de mieux se comprendre. Et aussi avec le tarot, avec sa date de naissance, on est dans le visuel aussi pour cheminer, comprendre, avancer. Lors de nos entretiens et également dans les activités qu'on anime, alors aujourd'hui par Skype et en très petits groupes, on a repris avec les gestes barrières à la librairie, avec l'astrologie, c'est découvrir son thème, faire des ateliers pour gérer son émotionnel, mieux se comprendre. On donne des clés, mais en aucun cas on décide à la place de la personne.
Alors, en tout cas, il faut savoir perdre de vue le rivage, hein, une phrase positive qui a servi de titre à l'ouvrage de Sophie Machaut que l'on peut trouver entre autres dans votre librairie située avenue du Président Kennedy à Lille.
Oui, c'est une histoire qui nous fait écho et en fin de chapitre, il y a une proposition de questions-réponses. Donc, soit par l'écriture ou par le silence intérieur, on peut tirer des enseignements et de nouveau sourire à la vie.
Alors, Véronique et Thérèse, vous arrive-t-il justement de donner des conseils de lecture, devinant un petit peu ce que les gens recherchent?
Alors oui, c'est quand même le plaisir du libraire, c'est de partager les livres et les jeux qu'il a choisis. Donc, par l'échange, nous pouvons conseiller avec plaisir, tout en nous adaptant à la demande de la personne.
Alors, votre librairie est actuellement ouverte, elle est... On va dire en drive, en méthode, en...
Oui, tout à fait. Alors, on propose aux clients d'aller d'abord sur notre site, donc www.librairielemondedurani.com, d'aller présélectionner leurs livres, et ils peuvent venir retirer les livres du... Alors, on a changé jusque fin août nos horaires. On est ouverte du lundi au vendredi de 13h à 18h, et c'est pareil pour nos activités, hein. on fait aussi par Skype, on fait des ateliers, mais aussi des entretiens personnalisés, et dans le site, il y a « Découvrez votre librairie » et vous avez tout l'aspect pratique. Donc, soit on envoie en Colissimo, soit vous vous retirez à la librairie, vous pouvez payer sur le site, ou vous pouvez payer directement également à la librairie, en carte bleue, même les personnes qui ne veulent pas rentrer dans la librairie, on vient avec l'appareil carte bleue sur le pas de la porte et puis on leur donne leur livre, il n'y a pas de souci.
Alors, et puis le 13 juin, c'est la fête de la librairie indépendante. Et je crois que vous avez prévu une rencontre justement avec Sophie Machaud.
Oui, on a dû se réadapter. Et c'est vrai que comme toutes nos rencontres ont dû s'annuler, on a proposé donc à Sophie Machaud une rencontre virtuelle via notre page Facebook. Donc le 13 juin, parce que son livre vient de sortir, il est sorti juste avant le déconfinement. Et c'est un roman ressource avec des clés, donc elle a bien accepté de faire cette rencontre virtuelle. Donc on propose aux gens gratuitement de se connecter sur notre page Facebook, donc le 13 à 15h. Et donc il y aura une rencontre virtuelle et en même temps sur le côté il y aura un chat où les personnes pourront poser leurs questions sur son ouvrage.
Véronique Hollanda et Thérèse Parsi, merci. Ce que vous nous dites fait du bien au moral et on retient qu'il faut toujours positiver. Alors Boris Cyrulnik s'est fait son petit slogan, action, affection, réflexion. Vous avez sans doute le vôtre, très vite.
Oui, alors notre choix s'est porté sur une phrase de Mark Twain, extraite du livre « Le voyage des innocents ». Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Voilà, tout à fait. Merci à vous deux et très très bonne journée à vous, très très bonne semaine. Et puis à bientôt sur notre antenne.
À bientôt merci, et bonne merci, journée à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Positive, comme l'ont dit Thérèse et Véronique, on positive. Et puis, si vous le voulez bien, on reste ensemble pour justement continuer en chanson, en gaieté avec Kaléidoscope. Donc, à tout de suite.